Connu certainement le prélude de la première suite de Jean-Sébastien Bach pour violoncelle seul. Donc le prélude joué par Jean-Guillaume Queyras sur son violoncelle Kappa, enregistrement donc tiré de son intégrale des suites paru il y a quelque temps et qui a reçu donc le prix des Victoires de la musique récemment. Donc l'émission d'aujourd'hui donc sera centrée sur la personne de ce violoncelliste bien connu des amateurs de musique de la région et même du monde entier maintenant. Cette émission sera construite autour d'interviews réalisées il y a peu de temps chez les propres parents de Jean-Guillaume Queyras. Et ces interviews seront bien sûr entrecoupées d'œuvres de musique enregistrées évidemment par lui, qu'on expliquera au fur et à mesure. Donc pour rester sur Jean-Sébastien Bach, on va écouter le troisième mouvement, la courante de cette même suite, donc la suite numéro 1 en sol majeur de Jean-Sébastien Bach, interprétée par Jean-Guillaume Queyras sur son violoncelle Kappa.
Thank you.
Voilà, nous enregistrons cette émission en compagnie de Jean Guémqueras. Donc bonjour Jean Guémqueras, qui a bien voulu répondre à quelques-unes de nos questions. On va commencer cette interview par un événement qui a certainement, je pense, marqué votre vie cette année. C'était l'enregistrement des six suites de Bach, enregistrement qui a reçu la plus haute distinction aux dernières victoires de la musique. Moi, j'imagine que ça a dû être un grand plaisir, une grande joie.
Oui, alors c'est surtout une grande joie que cette victoire et que ait lieu particulièrement avec cet enregistrement-là. C'est vrai que les suites de Bach pour chaque violoncelliste, c'est notre compagnon d'une vie. Moi, j'ai enregistré j'ai commencé à jouer, à apprendre mes premières suites quand j'avais 10 ans, puis ensuite au fil des années, et ce sont des œuvres qui ne vous quittent jamais, que vous savez que vous aurez jusqu'à votre dernier jour de violoncelliste. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que d'une part, parce que c'est Bach, donc chaque note est absolument géniale et chaque note surtout peut être lue à différents niveaux, c'est-à-dire il y a le plaisir simplement de la mélodie, hein, c'est de la musique qui coule comme ça, mais c'est aussi une musique d'une force intellectuelle extraordinaire. Donc quand c'est votre humeur du jour et que vous avez envie d'étudier, d'aller gratter un petit peu ce qu'il y a sous cette belle mélodie, vous vous rendez compte qu'il y a en dessous d'infinis niveaux de lecture, en fait, hein. C'est-à-dire que c'est une musique qui a totalement révolutionné le violoncelle. Il faut savoir que elles sont écrites à une époque où le violoncelle est tout jeune. Hein. Le violoncelle est encore un petit bébé né 50 ans avant et destiné pour l'instant à l'époque à jouer la basse dans les cantates, à servir de basse dans la musique où les violons ont le grand rôle. Bon. Et en fait, lui va, comme il fait toujours, il va se servir de ce qui est apparemment les limites de l'instrument, c'est-à-dire en apparence comme ça, le violoncelle, c'est encore, tu vois, juste pour jouer une note à la fois, comme ça, c'est presque rien, c'est comme une contrebasse, si vous voulez, hein. J'ai rien contre les contrebasses, mais enfin bon. Et lui, il va transformer cet instrument en un instrument soliste, sans accompagnement de basse, ce qui dans notre musique, si vous voulez, a priori, on se dirait que c'est un non-sens. Parce que notre musique occidentale, c'est le pilier principal de notre musique, c'est l'harmonie. C'est-à-dire, c'est le fait d'agencer les notes ensemble. C'est-à-dire, vous jouez plusieurs notes ensemble et ça crée une harmonie. Et cette harmonie vous donne toute la couleur de ce que vous êtes en train de jouer. C'est-à-dire, c'est ça qui va déterminer l'atmosphère d'une œuvre. Vous voyez, chez Schubert, par exemple, c'est la quintessence de ça. Chez Schubert, les accords, les harmonies vont, c'est ça qui raconte la trame de l'histoire. Bon. Et lui, Bach, il va s'amuser comme ça à ne jouer qu'une note à la fois. Et en fait, à égrener cette harmonie, c'est-à-dire ces notes que vous devriez entendre d'un coup, à égrener ces notes les unes derrière les autres, c'est-à-dire à transformer, si vous voulez, l'harmonie en mélodie. Ça peut paraître un peu compliqué, mais c'est en fait une sorte de jeu, de défi pour lui-même et pour l'auditeur, et qui va rendre ces pièces justement tellement intéressantes et diverses, et surtout, qui est étonnant, c'est qu'elles sont entre guillemets inusables. Thank you.
C'était le prélude de la sixième suite pour violoncelle seule de Jean-Sébastien Bach, interprété par Jean-Guillaume Queyras. Alors cette sixième suite, elle a ceci de particulier, qu'elle a été composée pour un violoncelle à cinq cordes. Bon, pour l'occasion, Jean-Guillaume Queyras a utilisé son violoncelle habituel, très bon violoncelle bien sûr. Ça va être expliqué d'ailleurs dans la suite de l'interview que je vous propose donc d'entendre.
Entre guillemets inusable. C'est-à-dire que moi-même, je vais vous dire, quand j'ai eu le projet d'enregistrer ces suites, je me suis dit, bon, est-ce vraiment raisonnable, hein? Le grand Casal, Rostropovitch évidemment, le Yo-Yo Ma, Anna Balesma, mais tout le monde, je cite que les plus grands, mais vous savez, il y a, vous allez à la FNAC, il y a 40 enregistrements de ces suites. Donc je veux dire, pourquoi devrais-je enregistrer les miennes? Et finalement, on s'aperçoit que si vous avez vraiment le plaisir d'aller fouiller dans ces œuvres, comme Bach a eu du plaisir à faire partir ses œuvres dans tous les sens, eh ben vous allez pouvoir offrir une lecture qui est originale, qui est différente, et qui va faire que finalement, ben, cet enregistrement effectivement a eu le succès qu'il a eu.
Alors je crois me souvenir que vous aviez déclaré sur France Musique, vous aviez attendu 40 ans en fait pour les enregistrer ces suites, bien que vous les avez jouées bien, bien avant j'imagine, mais à quel moment on peut se dire voilà, je peux enregistrer les suites, j'ai la maturité pour le faire?
Alors vous voulez dire j'ai attendu d'avoir 40 ans, parce que si j'avais attendu 40 ans, il aurait fallu que j'attende encore un petit peu. Non, j'ai pas vraiment, c'était pas conscient, c'était drôle. Dans ce qui était marrant, c'est que j'ai enregistré ces suites, effectivement le dernier jour d'enregistrement de ces suites, c'était le 10 mars 2007, c'est-à-dire la veille de mon anniversaire. Il se trouve que je suis du 11 mars, et donc, mais ça a été un petit peu le hasard. Voilà. Donc j'avais encore 39 ans quand j'ai enregistré la dernière note de cet enregistrement. Mais en fait, pour répondre à votre question, justement, il n'y a pas de bon moment pour enregistrer ces suites, ou alors il n'y en a pas de mauvais. C'est-à-dire que je crois que je joue ces suites d'une manière totalement différente de ce que j'ai joué il y a 10 ans, et je suis certain que dans 10 ans, je les jouerai totalement différemment. Donc en soi, même l'idée de les réenregistrer dans 10 ans, pourquoi pas, ou de dire que j'aurais pu les enregistrer il y a 10 ans, ça aurait été possible. La raison pour laquelle j'ai attendu un peu, alors que dans le principe, je n'ai, par exemple, s'il y a des collègues qui les ont enregistrés à 30 ans, ou même à 25 ans, etc., et qui ont fait des très belles choses, le premier enregistrement de Yoma, c'était, il avait 25 ans, je crois, et je le trouve très réussi, cet enregistrement. La raison pour laquelle moi, j'ai attendu, c'était plus une histoire d'instrument. Vous savez, il y a la sixième de ces suites. Bach a voulu encore une fois rajouter du défi au défi, et il a voulu aller encore pour repousser les limites de l'instrument, du violoncelle, et donc il a écrit cette suite, la sixième suite donc, la dernière, pour un instrument à cinq cordes, pour pouvoir aller encore plus loin, pour pouvoir aller dans le registre encore plus haut, pour vraiment rendre cette dernière suite totalement symphonique presque, avec un seul instrument. Et ça pose divers problèmes, parce que les instruments à cinq cordes, qu'on appelle parfois aussi violoncelle piccolo, ce sont des instruments, c'est très difficile de trouver un instrument qui ait une grande qualité de son dans tous les registres, c'est-à-dire qu'il y ait des beaux graves et aussi de beaux aigus sur cette corde supplémentaire, la corde demi, aigu qui se rapproche presque du violon. Et donc, et moi personnellement, je n'ai pas trouvé d'instrument qui soit vraiment satisfaisant de ce point de vue-là. J'ai tâtonné un peu, j'ai essayé, etc. Et en concert, très souvent d'ailleurs, les collègues qui jouent la sixième suite sur violoncelle à cinq cordes et qui amènent donc deux violoncelles, eux-mêmes sont un peu frustrés. Moi, j'ai vu par exemple Peter Whistlewee, un violoncelliste hollandais, faire ça en concert, et avant de jouer la sixième suite, il faisait une annonce au public en disant: bon, mesdames, messieurs, je dois vous prévenir, le violoncelle à cinq cordes sonne beaucoup moins que le violoncelle à quatre cordes, donc faut vous préparer, maintenant vous allez avoir un son beaucoup plus petit, beaucoup plus restreint. Et c'est vrai que moi-même, à l'écoute, j'étais un petit peu frustré, et je sentais que lui-même l'était. Pour terminer là-dessus, c'est que j'ai fait le choix de faire ce que font pas mal de violoncellistes, c'est-à-dire de jouer cette suite quand même sur un violoncelle à quatre cordes, parce que j'ai aussi un instrument qui vraiment rayonne dans tous les registres et me permet de vraiment de faire donner toute son ampleur à cette sixième suite, même sur quatre cordes. C'est un violoncelle qu'on prête depuis quelque temps, dont on parlera bientôt, qui est un violoncelle de Kappa. Et ce violoncelle, je ne l'ai que depuis 2 ans. Et c'est un petit peu ça aussi qui a été le phénomène déclencheur. Là, j'ai dit à Harmonia Mundi et à Eva Koutas, donc qui dirige Harmonia Mundi, j'ai dit: bon voilà, maintenant je suis prêt, on peut y aller, je peux faire l'enregistrement.
Thank you.
La sarabande de la sixième suite de Jean-Sébastien Bach, donc cette œuvre pour violoncelle seule.
Je crois aussi que vous avez utilisé des lieux différents pour chacune des suites. Alors, peut-être je me suis mal renseigné. Je crois que vous avez enregistré le premier disque. C'est un disque Britten, donc avec les trois suites de Benjamin Britten. 10 ans exactement aujourd'hui, mois-ci. Est-ce que vous rejouez encore ces suites-là? Est-ce que le regard que vous avez sur ces suites a changé depuis 10 ans?
Alors, juste pour faire une petite parenthèse sur... C'est intéressant ce que vous avez dit sur les différents lieux pour les suites. Je trouve que ça aurait été une option tout à fait plausible. Là, il se trouve que finalement, j'ai choisi... Il y a certains collègues aussi qui ont choisi de faire les différentes suites sur différents instruments, par exemple. Aussi. C'est le cas de Bruno Coxet, qui est un violoncelliste que je respecte beaucoup et qui a fait aussi son intégrale des suites, et il a utilisé 3 instruments pour les 6 suites. Hein. Donc finalement, moi j'ai choisi unité de lieu et unité d'instrument. Une petite parenthèse. Alors pour revenir aux suites de Britten, c'est marrant, je m'étais pas rendu compte que ça faisait déjà 10 ans. 10 ans déjà. Effectivement, donc c'est des suites que je rejoue toujours avec un très grand bonheur. C'est un répertoire extraordinaire. Sans doute aussi le fait, après avoir enregistré les suites de Bach, je vois ces suites de Britten différemment, évidemment. J'ai aussi un autre instrument maintenant, qui fait que le regard que je porte sur elle a forcément évolué. J'ai eu toute une période, il y a quelques années, il y a, je dirais, 4, 5, 6, 7 ans, où je jouais beaucoup plus volontiers la 3e suite que les autres. Et là aussi, c'était influencé par l'instrument. L'instrument que je jouais avant, qui est un violoncelle anonyme de la région de Milan, et qui n'était pas aussi... puissant, aussi ample que le capa que je joue maintenant, mais qui avait un timbre très touchant, très émouvant, plus intérieur, se prêtait bien à cette 3e suite de Britten, qui est une suite toute en intériorité, toute qui traite vraiment de choses très sombres, je dirais même, mais d'une manière très belle. Je pense que c'est vraiment une suite qui traite de la mort, qui traite du dialogue avec l'au-delà. Voilà, hein, c'est une suite qui est basée sur des chants traditionnels russes qui n'apparaissent qu'à la fin de la pièce. Et en fait, tout le processus, toute la suite, jusqu'à ce que apparaissent vraiment ces mélodies russes, est une sorte de recherche de ces mélodies ancestrales qui sont très anciennes, si vous voulez. C'est comme une quête, vous voyez, vous partez dans l'inconnu comme ça, vous tapez tâtonné pendant cette suite. Et donc, ça donne, ça fait une forme qui, au départ, est assez, peut être un petit peu perturbante ou en tout cas assez inconnue pour l'auditeur, parce que c'est pas la forme habituelle qu'on a l'habitude, vous savez, avec quatre mouvements, etc. Non, c'est une suite de mouvements qui s'enchaînent comme ça, on sait pas trop où ça va, etc. Ça tâtonne beaucoup, mais c'est une grande quête philosophique, voilà, et qui débouche après sur ces chants traditionnels russes, dont une élégie, un chant aux morts qui apparaît en dernier et qui est vraiment très bouleversant. Et donc, mon violoncelle précédent se prêtait beaucoup à ça.
C'était la toute fin de cette troisième suite pour violoncelle seule de Benjamin Britten, interprétée donc par Jean Gemkeras sur un disque qui date de 10 ans exactement. Voici la suite de l'interview.
Maintenant que j'ai le violoncelle de Capa de Mécénat Musical Société Générale, je peux beaucoup mieux aborder la première et la deuxième suite, qui sont des œuvres plus rayonnantes, dans des tonalités majeures, et je peux beaucoup plus les orchestrer de manière convaincante.
Vous avez aussi enregistré un disque de musique hongroise du XXe siècle, avec des œuvres, la très belle sonate de Kodály, des œuvres de Verech, je crois, de Courtag. Est-ce qu'on peut dire que les compositeurs hongrois ont une prédilection pour le violoncelle? Est-ce qu'il y a une école du violoncelle particulièrement développée dans ce pays?
Alors d'abord, il y a une très belle école de cordes en général en Europe centrale. les Tchèques et les Hongrois. Le pays est très riche de ce point de vue-là. On a un grand violoncelliste vivant actuel qui s'appelle Miklos Pereni, qui n'est pas quelqu'un qui est connu médiatiquement, j'ai envie de dire, d'un public très large, mais par contre, tous les connaisseurs le respectent et le vénèrent comme un des grands maîtres de l'instrument. Moi, je sais que Pereni passe pas trop loin. Je vais pas rater son concert. J'y jetterai. Je sais que c'est la même chose de tous les collègues. Oui, Starker, grand, voilà, absolument grand tchèque. Donc, les compositeurs hongrois, en général, que ce soit effectivement Kurtág, Veresh et Kodály, bien sûr, qui était lui-même violoncelliste, ont une manière d'aborder les cordes, des instruments à cordes, qui est très dense, très intense. C'est un peu l'opposé de ce que fera un Ravel, de ce que fera un compositeur français. Une manière très, très riche de traiter la sonorité de l'instrument et surtout de le rendre très rhétorique, très, très parlant, comme ça, et quelque chose pour lequel moi j'ai une affinité.
Vous avez aussi enregistré le concerto de Ligeti avec Pierre Boulez, je crois. Donc ça s'inscrit aussi. Donc vous avez un goût particulier pour ce type de répertoire, je crois aussi.
Oui, et je crois que c'est aussi la rencontre avec ces compositeurs. Il se trouve que les Hongrois sont de forts tempéraments. Évidemment, le fait d'avoir travaillé en tête à tête pendant de longues heures avec Ligeti sur son concerto, avec Kurtág sur ses œuvres pour violoncelle seule, et aussi sur ses œuvres de musique de chambre, ça a été évidemment pour moi des moments extrêmement marquants. En plus, Ligeti, le travail avec lui, si je venais de rentrer à l'intercontemporain, j'avais 24 ans, donc oui, je venais de commencer ce travail intense sur la musique contemporaine, et là, de travailler avec un grand maître comme ça, avec un géant, avec une légende vivante comme ça, c'était quelque chose de très très fort. Et pareil avec Kurtág, c'est quand j'avais 26, 27 ans, quelque chose comme ça. Et donc c'est une expérience très très forte.
Votre ancrage dans la musique, votre intérêt pour la musique du XXe siècle, vous a pas empêché aussi de jouer, je crois, des pièces du répertoire romantique. Je pense au concerto de Schumann, je pense à la sonate de Rachmaninov qu'on a pu entendre d'ailleurs l'été dernier à Salagon. Comment est-ce que vous abordez les différents types de répertoires? Est-ce que c'est plus facile pour vous de jouer du Dvorak, du Schumann? Plutôt que du... Comment est-ce que vous abordez ce répertoire différent?
Alors, en fait, pour moi, tous les répertoires sont très complémentaires. Et finalement, quelles que soient, comment dire, les époques, finalement, elles, qu'est-ce qu'elles vont donner? Elles vont donner un langage différent. C'est comme si vous exprimiez des sentiments similaires dans différentes langues ou avec différents modes d'expression. Mais finalement, ce que je veux dire, c'est qu'un Bach qui compose ses suites ou un Schumann qui compose son concerto ou un Kurtág qui compose ses pièces pour violoncelle seule à la fin du XXe siècle, il y a la même urgence chez tous ces génies, il y a la même urgence l'urgence d'exprimer des choses très profondes, des sentiments très profonds, comment dire, et qui vont aller se mettre en connexion avec les sentiments de l'auditeur. Quelqu'un va au concert. Pourquoi il va au concert? Parce qu'il a envie de rencontrer chez le compositeur et chez l'interprète, parce que c'est là que rentre le rôle de l'interprète de manière importante, les mêmes questionnements, les mêmes angoisses, les mêmes espérances, etc. Et tout ça va se faire parfois au niveau du subconscient et de l'inconscient. Et à travers ce langage musical, qu'on dit universel, évidemment, puisque ce ne sont pas proprement parlés des langues. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que ce qui va changer finalement, c'est ce que les codes d'une certaine époque vont imposer aux compositeurs. Et très souvent, vous vous rendez compte que tous ces génies, que ce soit Mozart, Beethoven, etc., Boulez, c'est ce qui va donner la force à leur langage, c'est la manière dont ils se confrontent aux codes du moment, si vous voulez. Alors par exemple chez Mozart, chez Beethoven, allez, prenons l'exemple de Beethoven puisque c'est un des plus forts de ce point de vue-là. Le classicisme est encore là, et puis il va donner des grands coups de pied dans ce classicisme, et il va commencer à créer un nouveau langage, etc. Et pourquoi? Parce que il y a ce sentiment de lutte et d'urgence. Et finalement, ce qui m'intéresse moi en tant qu'interprète, en fait, et c'est pour ça que j'ai souvent dans mes programmes mis en relief des pièces contemporaines avec des pièces classiques, et on me demande souvent pourquoi. Et en fait, c'est parce que justement, je trouve intéressant de mettre en parallèle comme ça l'expression finalement de sentiments communs exprimés à des époques différentes, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, au XIXe, au XXe siècle, au XXIe siècle, et finalement de trouver en fait ces constantes exprimées avec les langages des différentes époques. Thank you.
Thank you.
le premier mouvement de la sonate pour violoncelle seule de Zoltán Kodály, interprété donc par Jean-Guillaume Queyras.
Jean-Guillaume Queyras, vous vivez à Freiburg, mais vous enseignez à la Musikhochschule de Stuttgart. Vous connaissez donc le terrain. Est-ce que vous pouvez dire qu'il y a une différence fondamentale entre la façon d'enseigner en Allemagne et la façon d'enseigner en France ou dans le reste de l'Europe?
Il y a une différence au niveau de l'enseignement et au niveau de l'environnement musical. Je dirais ce qui est frappant en Allemagne, c'est que la musique est plus répandue au niveau des musiciens amateurs. La pratique de la musique est beaucoup plus répandue au niveau des professions supérieures. C'est-à-dire, je crois que n'importe quel dentiste ou docteur, etc., sort son violon le dimanche, se retrouve avec ses copains et va jouer les quatuors de Schubert. Bon, c'est que c'est un fait rarissime en France. Hélas, c'est ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fort et qui vient d'une longue lignée, d'une longue tradition. Si vous faites des études supérieures et que vous allez devenir docteur, professeur, etc., il est normal que vous jouiez de manière très, parfois, fantastiquement, d'un instrument à cordes, du piano, d'un instrument avant. C'est une différence fondamentale dans l'environnement musical. Alors au niveau de l'enseignement, je dirais qu'il y a aussi une différence de base. Je crois qu'en France, dans l'enseignement musical, comme dans le reste, il y a cette tradition des grandes écoles. Alors la tradition des grandes écoles d'élite, c'est-à-dire, vous savez, donc vous avez pour les politiques, vous avez l'ENA, le machin, le HEC, toutes ces grandes choses. Bon, et ben dans la musique, pendant très très longtemps, il y avait le Conservatoire de Paris. Donc vous entriez au Conservatoire de Paris, il fallait rentrer très jeune et vous aviez une formation d'élite un peu, à mon sens, un peu trop restreinte, mais extrêmement efficace. Donc, par exemple, au niveau du solfège, par exemple, au niveau de tout ce qui va vous permettre, au niveau pratique, de devenir un instrumentiste efficace, brillant, rapide. Bon, ça a évolué maintenant, hein, mais il faut savoir qu'il y a une époque, je remonte là maintenant, il y a 30 ans, les gamins rentraient, pour certains instruments, notamment le violon ou le piano, ils rentraient au Conservatoire de Paris à 10 ans, à 11 ans, hein, en étant avec le qualificatif d'enfant prodige, et ils faisaient un cursus d'un an. Et à 11 ans, ils avaient fini leur cursus de super. Donc c'est en soi une aberration. On formait des enfants prodiges comme ça, etc. Qui ensuite, il faut savoir que bon, c'est pas forcément facile pour la suite. Mais il faut dire qu'il y avait quand même une tradition de virtuosité et d'efficacité au niveau du solfège qui est là et qui reste quand même maintenant. Heureusement maintenant, donc il y a eu la création d'abord d'un deuxième grand conservatoire national qui est supérieur, qui est à Paris, où moi-même j'ai fait mes études et Pierre Olivier aussi, qui est très bien et qui a lui tout de suite voulu aller un peu dans la direction d'un enseignement un petit peu plus large, avec un cursus plus long, le prendre le temps quand même de former de manière plus complète un musicien. C'est-à-dire pas seulement être un virtuose que les doigts se bougent très brillamment, mais qui ait une vision plus large justement de la musique. Et que je pense que c'est une très bonne chose. En Allemagne, je dirais que... Donc vous avez beaucoup d'Hochschule, vous en avez mais énormément, chaque ville... grande, voire moyenne. J'enseigne moi-même à Stuttgart, mais je vis à Freiburg. Freiburg est une ville de 250 000 habitants. Bon, 250 000 habitants, et elle a une Hochschule, qui est très bonne d'ailleurs, où j'ai moi-même fait mes études après avoir été à Lyon. C'est là que j'ai découvert l'Allemagne, hein. C'est quand j'avais 17 ans. J'avais fini mon cursus, d'ailleurs, vous voyez, je vous dis, à Lyon, je suis rentré quand j'avais 13 ans, j'en suis sorti à 17 ans. Bon, quand j'avais 17 ans, je suis allé à Freiburg, et c'est là que j'ai découvert tout ce monde musical allemand, etc. Et c'était très intéressant pour moi. Il est vrai que au niveau de technique instrumentale et du solfège, les Allemands sont un petit peu derrière. Ils ont moins, comment dire, d'instrumentistes rapides, etc., capables tout de suite, par exemple, d'aller à l'intercontemporain et de lire des partitions très compliquées, etc., très complexes. Parce qu'au niveau du solfège, c'est pas ça. Et surtout parce que, tout simplement, pour former un virtuose, qui peut être pour certains peut être le cas si le potentiel est là, ça se fait très très jeune. C'est-à-dire qu'effectivement, alors qu'en Allemagne, ils vont préférer être prudents. Il est rarissime qu'un instrumentiste commence vraiment à faire des études supérieures avec un grand professeur très jeune, à 13, 14 ans, etc. Alors qu'en France, c'est normal. Donc, ils vont d'abord, on va passer le bac, on va faire des études complètes, etc. Et puis, à 18, 19 ans, on va se diriger vers l'école supérieure. Or, si vous voulez vraiment devenir un grand virtuose, il y a des choses qui s'apprennent quand vous avez 12, 13, 14 ans. C'est comme ça. Il y a des choses, ce que vous apprenez quand vous êtes très jeune, c'est beaucoup plus intégré, c'est beaucoup plus provenant. Donc, moi, en tant que professeur, par exemple, à Stuttgart, je vais avoir maintenant mon premier Jungstudent, ça s'appelle comme ça en Allemagne, c'est-à-dire un élève qui va commencer un pré-cursus, il a 14 ans. Il est venu jouer pour moi il y a quelques mois et j'ai été époustouflé par son potentiel. J'ai tout de suite vu qu'il fallait aller vite avec lui parce que c'est un enfant qui est très très doué, qui a une grande maturité musicale pour son âge. Et donc il faut qu'il apprenne maintenant le grand répertoire et il faut pas perdre de temps. Donc il va venir comme Vorschüler, ça s'appelle, c'est-à-dire la pré-classe, voilà, c'est ça. Et il va continuer, il est à l'école et puis il va venir en des cours avec moi à la Hochschule. Mais sinon, voilà. Et sinon, c'est par contre très positif dans l'enseignement allemand. C'est encore une fois un cursus où vous avez beaucoup d'options d'enseignement plus large, avec beaucoup de matières possibles, etc. Sachant que maintenant, ces différences dont je viens de vous parler, elles sont en train quand même de s'amenuiser. C'est-à-dire que, et aussi au niveau des cursus, etc., c'est en train de s'unifier au niveau européen. On est en train tous d'intégrer un système qu'on a repris des États-Unis qui s'appelle le Bachelor and Masters. Et au niveau de l'offre aussi, ça commence à devenir beaucoup plus similaire. On a trouvé une sorte de point d'équilibre entre ces différentes qualités des différents pays. Et je pense que ça devient de plus, ça se ressemble de plus en plus.
Trois courtes pièces de Georgi Kurtag pour violoncelle seul, interprétées par Jean-Guillaume Queyras.
Bon, maintenant j'aurais quelques questions peut-être plus personnelles à vous poser. Alors, une question toute simple, c'est quand on a un violoncelle, qu'on voyage en avion, comment fait-on ?
Eh ben, c'est la galère. Voilà, donc oui, non, on est obligé d'acheter un siège pour le violoncelle. Donc mon violoncelle me coûte bien cher pour mes tournées parce qu'on peut pas le mettre en soute, d'abord parce que c'est dangereux, et puis ensuite, vu que c'est dangereux, l'assurance, parce que bien sûr j'ai une assurance pour mon instrument, ne couvre pas l'instrument, il refuse de le couvrir si on le met en soute. Donc si vous le mettez là, c'est à vos risques et périls. Donc puis alors à chaque fois c'est compliqué. Alors il y a des compagnies aériennes qui sont assez simples et assez faciles. Bizarrement, ce sont les compagnies les moins chères qui sont les plus simples et les moins compliquées. Les low cost, elles sont extrêmement faciles, autant pour acheter le billet pour l'instrument que sur le moment, alors que des compagnies comme British Airways, qui est l'autre exemple, là c'est l'exemple inverse, là c'est horrible à chaque fois, ce sont des contorsions pour acheter le billet. Et Air France, je dois dire, c'est la même chose en ce qui concerne l'achat du billet. C'est, il faut les appeler, leur donner les dimensions, ça prend des plombes, vraiment à chaque fois c'est la panique. Et au moment de l'enregistrement, c'est pareil. Et alors British Airways, ça c'est le comble, c'est au moment où je vais donc aller dans l'avion, ils envoient. Normalement, dans la plupart des compagnies aériennes, si vous voulez, je demande simplement une rallonge de ceinture et je peux attacher mon violoncelle comme ça. C'est très très simple, ça prend exactement 15 secondes et le violoncelle ne bouge plus. Il est vraiment très stabilisé. Alors British Airways, eux, c'est une grande sécurité. Alors ils envoient un personnel de bord, vous savez, avec leur costume jaune fluorescent là comme ça, qui n'y connaissaient rien, mais qui sont soi-disant, qui viennent avec un grand filet et qui vont essayer de stabiliser le violoncelle avec un filet qui en fait ne tient pas bien. Donc en fait, c'est beaucoup moins sûr qu'avec la ceinture, mais vous pouvez rien faire. Vous savez, c'est les gens ont l'impression de connaître mieux que vous. Quelque chose qu'ils ne connaissent pas, et c'est bon, on est confronté à ça, on peut rien faire. Et du coup, en général, ça dure 15-30 minutes, et les gens autour de moi me regardent avec un regard noir, que le vol va prendre du retard à cause de moi. Donc voilà les petites histoires du violoncelle en voyage.
Alors, vous êtes amené à jouer avec de nombreux partenaires. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est le hasard qui vous guide, ou est-ce que vous avez une volonté peut-être précise de vous dire je vais jouer avec un tel? Comment se passent les rencontres?
Je crois que comme dans tous les domaines de la vie, le destin va faire que vous allez rencontrer un tel ou un tel. Et ensuite, ce sont les affinités et les choix qui vont faire que vous allez rejouer avec un tel ou un tel, ou ne pas rejouer avec un tel ou un tel. Donc maintenant, évidemment, je suis à un âge où j'ai trouvé mes partenaires, j'ai trouvé les gens avec qui je m'entends bien. Donc j'ai créé un quatuor avec trois Allemands, avec Antier Weitras, dont on a parlé tout à l'heure, et Daniel Sepek au violon, et avec Tabea Zimmermann à l'alto. Ce sont des amis très proches, on s'entend magnifiquement personnellement et musicalement, et donc on se retrouve maintenant régulièrement. On a créé le quatuor Arcanto, et on a fait notre premier disque chez Harmonia Mundi d'ailleurs l'année dernière, avec deux quatuors de Bartok, et notre prochain disque va paraître en fin 2008, et il sera consacré à Brahms. Il y a un quatuor à cordes en do mineur et le quintet avec piano avec Zilke Abenhaus, la merveilleuse Zilke Abenhaus. Et donc ça, c'est l'exemple d'une formation régulière, parce que tout simplement on sait qu'on est sur la même longueur d'onde. Quand vous jouez avec des gens comme ça, qui vous entendez bien, il y a plein de choses qui sont évidentes. Vous n'allez pas devoir répéter pendant des heures sur une mesure. Il y a plein de choses qui sont évidentes d'entrée de jeu. Et après, vous allez pouvoir simplement travailler vraiment sur les petits détails d'interprétation, sur ce que vous voulez dire, sur vraiment les détails rhétoriques. Qu'est-ce que je veux dire avec cette musique? Quel message je veux faire passer avec cette musique? Et vous n'avez pas à perdre du temps avec des problèmes techniques, j'ai envie de dire, de jeu d'ensemble. On est d'entrée de jeu, on joue ensemble et on est sur la même longueur d'onde. Après, on va affiner le message ensemble.
Oui, ce qui me frappe quand je vous ai regardé donc jouer, c'est la concentration que vous avez en fait avant de jouer, et bien sûr au moment de jouer. La question que je me pose, c'est à quoi pense-t-on quelques secondes avant de jouer?
Quand on se concentre, en fait, se concentrer, c'est quoi? C'est pénétrer dans l'univers de l'œuvre que vous allez jouer. Donc, on parlait tout à l'heure de ce qu'un, faut savoir quand Brahms écrit une sonate pour violon et violoncelle, ces thèmes, ces notes qui couchent sur le papier, c'est simplement le reflet d'émotions très intense, très forte qu'il vit sur le moment. Il a besoin, qu'il couche cette musique. Et si elle est si géniale, c'est parce que derrière, il y a une vraie urgence, un vrai besoin. C'est parce qu'il a vécu des sentiments et que nous, on a envie de revivre ces sentiments. Et que moi, en tant qu'interprète, pour les faire renaître, pour les faire revivre ces sentiments, ou plutôt pour que l'auditeur puisse vraiment communiquer comme ça avec ces sentiments très forts du compositeur, il faut que moi, je pénètre vraiment dans cet univers, faut que je sois transporté dans cet état du compositeur au moment de la composition. Et donc c'est ça en fait, de concentrer, c'est de laisser pénétrer par l'univers du compositeur. Et puis ensuite sur le moment même, c'est le moment où on joue, c'est un mélange de tout, c'est-à-dire que c'est à la fois cet univers, et puis c'est aussi évidemment la réalisation, parce que vous avez quand même des doigts qui doivent aller là, ils doivent aller, un archet qui doit aller, etc., qui doit aller là, toutes les infinies couleurs que vous allez devoir tirer de l'instrument pour traduire ces sentiments dont on parlait. Et en fait, c'est ça, ces deux choses dont je viens de parler. Et puis il y a aussi, il faut dire, il y a un phénomène assez marrant, mais que tout le monde connaît dans différents domaines, dans chacun dans son domaine, c'est que il y a au moment du concert, donc cette grande concentration, cette urgence, vous savez qu'il y a le moment du concert, vous avez ces 200, 300, 400, parfois 1000 personnes qui sont là, qui sont assises là, et vous voulez que ces personnes, elles vivent vraiment quelque chose de fort. Et pour ça, il y a tout simplement ce qu'on appelle un phénomène physique qui est l'adrénaline, hein. Et la montée d'adrénaline, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que tout va fonctionner plus rapidement dans votre tête, etc. Donc tout votre pensée, et donc vous allez penser à plein de différents niveaux. Et alors là, effectivement, là c'est un peu plus pour anecdotique, mais vous allez penser parfois à des choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous êtes en train de jouer. Vous avez des souvenirs qui vont venir, vous allez penser à des choses que vous devez faire qui n'ont rien à voir avec l'œuvre, mais ça, c'est pas guidé, c'est quelque chose qui, des choses qui apparaissent comme ça, et donc et qui sont totalement parallèles.
Le troisième mouvement, rondo, du quatuor avec flûte, numéro 1 de Mozart. Les interprètes étaient Emmanuel Pahut à la flûte, Christophe Poppen au violon, Arioff Schlichtig à l'alto et Jean-Guillaume Keras, bien sûr, au violoncelle. Voici la suite de l'interview.
Des souvenirs qui vont venir. Vous allez penser à des choses que vous devez faire qui n'ont rien à voir avec l'œuvre, mais ça, c'est pas guidé. C'est quelque chose qui, des choses qui apparaissent comme ça et donc et qui sont totalement parallèles.
Oui, mais est-ce que cette concentration, vous la travaillez d'une façon spéciale ou est-ce qu'elle vous est naturelle?
Ah oui, non, il y a bien sûr des exercices pour que. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous savez que le phénomène du trac. Alors bon, on en parle beaucoup. C'est quoi? C'est tout simplement la peur du moment. Alors cette peur, ou plutôt ce trac, il peut être très positif, c'est justement cette peur même va créer cette montée d'adrénaline avant le concert. Alors maintenant, il faut la guider, cette montée d'adrénaline, pour qu'elle devienne positive, pour qu'elle devienne productive, pour qu'elle vous donne une intensité dans l'interprétation et non pas qu'elle devienne une barrière, c'est-à-dire pour que vous soyez tétanisé et que ce qu'on appellerait le trac négatif, hein, et qui va faire que finalement vous allez être hyper critique vis-à-vis de vous-même, que vous n'allez pas pouvoir justement oser vous laisser aller dans l'œuvre, mais qu'au lieu de ça, vous allez tout le temps en train de vous dire vous critiquez, vous inhibez vous-même, hein, à ce moment-là. Et ça, pour ça, il y a des exercices, évidemment. Moi, je pratique beaucoup ce qu'on appelle la technique Alexander. Alors, Mathias Alexander était quelqu'un qui travaillait dans le théâtre. Il était acteur et quelqu'un qui a perdu un jour sa voix. Il ne pouvait plus parler et il s'est rendu compte que c'était de manière très inconsciente, subconsciente, une sorte d'autocensure. Hein. Justement, c'était cet esprit critique dont je parlais à l'instant qui faisait que son corps ne voulait plus fonctionner. A dit bon ben voilà, c'est fini. Bon. Et donc il a réappris, si vous voulez, toute l'interaction entre sa tête et son corps. C'est-à-dire comment réapprendre consciemment ce qu'on fait d'habitude de manière totalement inné, etc. Donc moi, en l'occurrence, en tant que violoncelliste, qu'est-ce que je vais faire? Ma tête va devoir faire marcher ma main gauche sur les cordes et guider l'archet avec ma main droite. Et tout ça, c'est quand même commandé par ma tête. Et tout ça, bien sûr, au départ, si on est un petit peu doué, bon, c'était un petit peu mon cas, ça se fait de manière inconsciente. On apprend simplement à le faire d'une manière différente, etc. Et là, Mathias Alexander a créé une technique pour, disons, faire réapprendre ou pour conscientiser, disons, tout ce rapport entre la tête et les membres, si je puis dire. Donc, et c'est ça, c'est une manière, si vous voulez, de contrôler ou de mieux maîtriser ces montées d'adrénaline, ces peurs, ces angoisses.
Jean-Guillaume Keras, si vous n'aviez pas fait de musique, quelle autre activité auriez-vous voulu faire?
Alors, je vais être très franc, la musique a été très très jeune, très centrale dans ma vie, et c'était ça que je voulais faire. Alors, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans la vie, mais je ne pourrais pas maintenant faire un autre métier. C'est-à-dire que si, par exemple, Dieu m'en garde, il m'arrive un accident qui fait que je peux plus faire de violoncelle, et ben j'enseignerai déjà diriger des orchestres d'étudiants, etc. Donc j'irai dans ce domaine-là, ou alors j'écrirai sur l'interprétation. Mais ça aurait toujours quelque chose à voir avec la musique et avec ce qu'elle exprime. Maintenant, je m'intéresse à beaucoup d'autres choses dans la vie, mais surtout mes enfants, mais parce que mes trois petits enfants me prennent beaucoup d'attention et donc mes hobbies maintenant ils sont beaucoup centrés autour des activités des enfants. Maintenant j'aime bien lire, je m'intéresse beaucoup à la politique, à la géopolitique, à l'histoire, à tout ce qui a rapport comme ça à la vie humaine. Est-ce que j'aurais eu le courage de m'engager dans la politique pour essayer de faire changer les choses? Parce que en fait c'est ça, quand on s'intéresse à ça. Moi par exemple en ce moment je suis fasciné par Barack Obama. Pour moi c'est, alors que bon je suis pas directement concerné, ça se passe de l'autre côté de l'Atlantique, ça se passe aux États-Unis, etc. Pour moi c'est quelque chose, c'est quelqu'un, je suis fasciné simplement parce que je trouve que c'est quelqu'un qui, dans un système qui est quand même très très fermé et très contrôlé par beaucoup d'intérêts, etc. C'est la présidence américaine, on sait à quel point c'est contrôlé par des lobbies et par des grosses entreprises, etc. Et que donc c'est faire bouger les choses, ça paraît quasiment impossible, mission impossible. Je crois que lui, bien sûr, il va être obligé il peut pas tout mettre par terre, mais il a en lui une force positive sincère. Moi, je le vois comme ça. Et il essaye de faire changer les choses. Donc moi, en ce moment, c'est quelque chose que j'ai beaucoup suivi ces derniers temps. Et j'espère qu'il va réussir à devenir le prochain président des États-Unis.
Alors, une dernière question. Dans la famille Keras à Freiburg, on parle allemand, français? On parle les deux, j'imagine?
Oui, on parle les deux. On parle les deux. Donc Gesine parle plutôt allemand aux enfants. Moi, je leur parle français. Nos deux premiers enfants sont nés en France. avant qu'on aille à Freiburg. Donc le français est vraiment aussi naturel pour eux que l'allemand. Notre petit dernier, Tonio, qui a 4 ans maintenant, est né en Allemagne. Il va à la maternelle en Allemagne. Tous ses copains sont allemands. Donc tout l'environnement est allemand. Donc il parle plus allemand. Et moi, je lui parle quand même toujours en français, mais il me répond souvent en allemand. Oui, on a des petits bilingues.
Jean Guemqueras, merci beaucoup pour ce passionnant entretien.
Thank you.